Bonjour à tous. Je vous invite ce matin à lire dans l'Évangile de Jean, le chapitre 21. Évangile de Jean, chapitre 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit « Les enfants, vous n'avez rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Ils lui dirent « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons car ils n'étaient pas loin de la rive à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez, mangez !» Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché vers Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrivait. J'aimerais vous poser une question. Qui d'entre vous aimerait rater sa vie. L'apôtre Pierre, un homme assez important dans l'Évangile. C'est un peu le leader de groupe, le porte-parole, celui qui reçoit la révélation que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui prend des initiatives. Ouais, c'est quand même un meneur, et dans le livre des Actes, ça va rester un meneur. Certains disent que c'est un peu le leader de l'Église naissante. Et pourtant, Pierre, parfois, il chute. Hein, on sait que quand il est sorti de la barque pour rejoindre Jésus, si c'est toi, maître, fais que je marche sur l'eau. Et il est parti marcher sur l'eau, et puis hop, il s'est enfoncé. Pierre, c'est aussi celui qui est connu pour avoir renié Jésus trois fois. Alors qu'il avait dit juste avant, je suis prêt à souffrir pour toi, aller en prison et même à mourir. Et après, devant une sainte servante, il va renier Jésus. Et puis on voit qu'il avait quand même après des doutes sur la résurrection. Quand les femmes vont venir dire que Jésus est ressuscité, tout ça, ça ne va pas rentrer vraiment dans la tête comme ça. Ça va être difficile. Et je me dis que peut-être qu'il était déçu de lui-même au moment où on le trouve là, en allant à la pêche. Et puis là, en plus, c'est drôle parce qu'ils vont à la pêche. Donc il y a la barque, après il va voir les poissons et tout, ça peut rappeler des événements au début de la vie de Jésus. C'est vrai. Et c'est vrai que dans cette barque, quand ils y sont montés, ils ont pu se dire, je veux dire, qu'ils ont vécu beaucoup de choses dans cette barque avec Jésus. Combien de fois Jésus aura pris cette barque pour prêcher, pour traverser le lac avec, il y aura eu les tempêtes, tout ça. C'est une barque qui est chargée de souvenirs. Mais je pense que pour Pierre, le coup d'avoir renié Jésus, ça a été vraiment le coup dur. Et s'il n'y avait pas eu ce matin sur la plage, il aurait peut-être pu dire, j'ai raté ma vie. Après 3 années passées avec le maître, à entendre son enseignement, voir ses miracles, partir en mission pour lui, vivre des choses extraordinaires, manger avec lui régulièrement, entendre toutes ses paraboles, avoir des explications privées, des dialogues, tout ça. Finalement, en reniant, j'ai peut-être tout foiré. Peut-être d'un côté, à cause de son orgueil, oui, je te suivrai partout, et puis après de se rendre compte qu'il n'était pas capable. Je me demande les questions qu'il pouvait se poser. Peut-être qu'il a pensé que le Seigneur l'a trouvé indigne du service auquel il le destinait. Et peut-être qu'il retourne à la pêche, à son ancienne occupation. Puis je me suis posé une question, qui n'est pas dans le texte, hein, mais j'aime bien poser des questions, et je me suis dit, qu'est-ce que sa femme pouvait penser, hein. Ah, dis donc, t'as voulu suivre ce jeune rabbi, là. Tu m'as mis la synagogue à dos, parce que toi, quand t'es parti pendant 3 ans, j'étais tous les samedis à la synagogue et que les gens me montraient du doigt. Ah, et les voisins, là, quand j'allais à la boulangerie, ah, c'est la femme de celui, vous savez, qui a suivi le rabbi, là, il est parti. Ça fait 6 mois qu'elle l'a pas vu, tout ça, vous parlez d'un mari, ou vous se demandez qu'est-ce qu'il fait. Bon, c'est pas dit dans le texte, c'est moi qui me le suis imaginé. Et puis là, avec le reniement, tout ça, qui retourne à la pêche, qu'est-ce qu'elle devait lui dire? Alors j'ai découpé tout ce texte en 3 points, et les versets 1 à 14, j'ai appelé la venue de celui qui change tout. Vous avez vu que Pierre dit il va pêcher, tout le monde le suit. Ça reste quand même le leader. Mais comme certains disent, est-ce qu'il faut voir ici un acte de désespoir? Le retour en arrière, le retour à l'ancienne vie, parce que, malgré tout, il faut quand même bien vivre, manger. Ils sont dans la barque, ils passent toute une nuit à pêcher sans rien prendre. Je pense que ça devait être long. Ils reviennent donc bredouilles. Tout cet effort se conclut par quoi? Par un résultat négatif. Alors non seulement il a renié le maître, il peut penser « j'ai raté ma vie », il retourne à son ancienne vie et la première repêche qu'il fait, ils prennent rien, décidément, pas la joie. Et la nuit arrive à son terme. Et c'est au lever du jour que Jésus apparaît. Avec la lumière du jour apparaît le ressuscité. Et c'est Jésus qui prend l'initiative du dialogue. Avec une question banale et ensuite un ordre, jeter le filet du côté droit. Et notons que la pêche là devient miraculeuse parce qu'ils ont écouté, ils ont obéi. Et alors ça c'est un petit peu difficile, est-ce qu'on va dire ils ont cru à la parole de cet homme sur la plage alors qu'ils n'avaient pas encore reconnu Jésus, mais ils ont quand même obéi. Et là, on peut noter que la rapidité de la prise des poissons montre l'efficacité de la parole de Jésus quand elle est obéie. Et c'est comme ça que Jean va le reconnaître. Évidemment, tout ce qui se passe là peut rappeler aux disciples la pêche miraculeuse qu'on voit dans l'évangile de Luc au début, avec cette promesse, suivez-moi, vous ferez pêcheurs d'hommes. Et dès que Pierre entend que c'est le Seigneur, il se jette à l'eau, il nage plus vite que l'Ormanodou, il fonce pour rejoindre son maître. Quand même, le dernier souvenir cuisant qu'il a, c'est le reniement. Et là, on entend que c'est Jésus, il saute à l'eau et il nage pour rejoindre le maître. Et moi, je pense que ça montre son amour pour Jésus, mais aussi la bonne image qu'il en a. Malgré son reniement, il va à sa rencontre. Il sait qu'il va se retrouver en face de celui qu'il a renié, mais il sait aussi qu'il se retrouve en face de celui qui aime et qui a prouvé son amour d'une manière incroyable en lavant les pieds de ses disciples, en lavant les pieds de Pierre. C'est sûr qu'en arrivant, en voyant le feu de braise, ça a dû le renvoyer à la cour du grand prêtre, la servante, hein, on connaît tous ce passage. Et quand tout le monde est là, c'est Jésus qui invite à manger. Et il a préparé le repas avant qu'ils arrivent. Mais il va quand même demander, apportez le poisson que vous avez là. Et le repas, on sait que c'est le signe de la communion, partage fraternel, c'est un signe d'intimité. Et combien de fois ils auront mangé avec Jésus pendant ces 3 années. Pour nous aujourd'hui, j'aimerais dire, rappelons-nous que le Seigneur est toujours celui qui se révèle à nous, qui vient à nous. Et il s'est déjà révélé à nous d'une manière particulière le jour de notre conversion. Il nous a fait cette grâce d'être réconciliés avec lui, d'être purifiés par son sang, de faire partie de sa famille. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Mais qui d'entre nous n'a jamais connu des moments où, après avoir péché, après avoir désobéi consciemment, après peut-être avoir fait la sourde oreille par rapport à un appel, après peut-être s'être éloigné de Dieu pendant un temps, peut-être éloigné de l'Église, qui s'est jamais des fois senti un petit peu perdu ou avec cette impression d'avoir loupé quelque chose, qui s'est jamais des fois senti un petit peu sale, indigne de s'approcher de Dieu. Mais j'aimerais dire, si c'était le cas ce matin pour quelqu'un, il est bon de se rappeler cette parole de l'apôtre Paul. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et dans mes moments difficiles, dans mes moments de doute, dans mes moments où j'ai l'impression que j'ai un peu foiré, j'aime à me rappeler des promesses qui sont dans l'Écriture. Oui, Jean-Pierre, là, t'as un petit peu foiré le truc, t'as pas été trop droit, ton cœur tordu, t'as encore joué des tours, mais rappelle-toi, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que je peux vivre n'importe comment, je ne suis pas en train de dire ça. Mais il n'y a plus de condamnation, comme l'a lu tout à l'heure Daniel, l'acte de condamnation a été cloué à la croix. Et Jésus est toujours celui qui vient pour rétablir une relation qui a pu être brisée. Il est celui qui veut toujours entrer en dialogue, en contact avec lui. Et pour ça, il ne prépare pas une salle de tribunal, mais un repas qui rappelle qu'il s'est offert lui-même pour nous. Jésus a dit « Je suis le pain de vie » et nous invite à non pas manger du poisson, mais à manger sa chair ou à nous nourrir de sa parole qui est une parole de vie et non pas une parole de mort. Et le repas est prêt à nous de toujours répondre à cette invitation. Les versets 15 à 19, j'ai appelé « Amour, pardon, mission ». Vous avez vu, le repas là, il est communautaire. Hein, j'ai essayé de compter, j'ai l'impression qu'il manquait aux deux disciples, mais c'est à peu près tout ça. Et là, pendant le repas, Jésus va établir ou rétablir Pierre dans son ministère devant les autres apôtres. Il est important toujours de noter que Pierre est un peu le leader du groupe et tout. Il est quand même celui qui a aussi renié Jésus à ce moment-là. Mais notez qu'ils sont quand même tous ensemble à la pêche. Il n'y a pas eu de séparation dans le groupe. Hein. Et la question que Jésus pose peut choquer. Est-ce que vous avez jamais choqué cette question? Parce qu'il ne dit pas « Pierre, m'aimes-tu ?» C'est ça qu'il dit. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Et en gros, puisque Pierre répond, ça pourrait presque dire, c'est pas dit comme ça dans le texte, mais ça veut presque dire, oui, je t'aime plus que ceci. Alors jusqu'à dire, Seigneur, tu sais ce qu'il y a dans mon cœur et tu sais que je t'aime. Et là, je crois que Jésus est en train de rétablir Pierre devant les autres. Mais je me suis quand même demandé que ce que pensaient les autres apôtres, parce que dans les évangiles, on les voit qui se font quand même des coudes pour savoir qui a la première place, en gros, qui est le premier ministre, et il y a des passages qui sont quand même intéressants. Alors et là, et à chaque réponse de Pierre, Jésus lui confie la responsabilité du troupeau. Et par là, il va lui montrer que la charge ne va pas dépendre de ses qualités à lui, de sa fidélité, de sa vie sans péché. Tout dépend du Seigneur qui l'a choisi, établi, équipé et qui l'envoie. Et la seule condition pour entrer dans ce ministère du côté de Pierre, c'est son amour pour le Seigneur. Pierre, m'aimes-tu ? C'est un amour qui a transformé le caractère de Pierre et qui a continué à le transformer après dans sa vie. C'est vrai, Pierre est appelé à être leader de l'église naissante. Il va ouvrir la porte du royaume aux juifs, aux samaritains, aux païens, un peu l'histoire de ces clés là où c'est lui qui va ouvrir les portes. Mais il pourra le faire uniquement s'il est rempli de l'amour de Dieu pour les autres. Et notez que pour aller chez Corneille, ça n'a pas quand même été facile pour lui, en tant que juif, d'aller chez un païen. Comme certains disent, il a fallu que Dieu lui mette un coup de pied au derrière pour dire « Avance Pierre, il faut vraiment que tu ouvres cette porte. » Et il va être appelé à ouvrir ses portes, mais aussi à donner la nourriture, à conduire la communauté sur le bon chemin. Dans cette guérison, Jésus va donner à Pierre autant de possibilités d'exprimer son amour qu'il y a eu de reniement. Ce qui montre qu'aucune faute ne peut le séparer de son Seigneur. Il pourra toujours compter sur son amour, sur son pardon, sur sa grâce. Aie foi en moi, Pierre. Pas en toi, parce que finalement, tu as vu que c'est satané. Aie foi en moi, Pierre. Pas dans tes capacités, pas dans tes forces, mais aie foi en moi. Il y a vraiment aussi un appel à être fidèle et à placer sa confiance dans le Seigneur. Et je pense qu'après une expérience comme ça, il a dû avoir une compréhension plus profonde et complète de l'amour de Jésus, du pardon. Et certainement que certains discours de Jésus sur l'amour, le pardon, tout ça, ça a dû bien s'ancrer à ce moment-là, ce qu'il a expérimenté. Et finalement, je me dis que tout ce dialogue et tout son voilà, ça a commencé par une faute, un rejet. Ça, c'est la puissance de Dieu de transformer les choses mauvaises en choses bonnes. Par lui-même, il ne pouvait pas donner sa vie au Seigneur comme il pensait. J'irai en prison, je suis prêt à souffrir, je suis prêt à mourir. Pourtant, il ne pouvait pas. Mais le Seigneur le rendra capable. Hein? Et la tradition de l'Église veut que Pierre terminera sa vie justifié. Alors, pour nous, je me suis posé la question, si le Seigneur nous demandait à chacun de nous, là, m'aimes-tu plus que ceci ? Waouh ! Un Seigneur, il faut foutre la pagaille, hein, la question. Mais je ne sais pas quelle serait quoi, notre réaction. Je me suis posé la question, est-ce que j'aurais la peur d'entendre une question pareille ? Mais pourquoi tu me poses cette question ? Est-ce que j'aurais la honte en disant, ben, je ne sais pas si mon amour est si grand que ça ? Est-ce que je serais embarrassé ? Est-ce que je resterais sans réponse ? Mais je ne sais pas, qui d'entre nous pourrait dire « Tu connais toutes choses, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu peux lire dans mon cœur, Seigneur. Et tu sais qu'il n'y a pas de place pour les idoles. Tu es le seul maître de ma vie. Alléluia !» Hein ? Non, c'est... Non, Marino n'a pas l'air convaincu. Et Seigneur, tu es le seul qui remplit ma vie. Allez, Seigneur, qu'attends-tu de moi ? Je suis dans les starting blocks. Tout ce que tu veux que je fasse, je suis prêt à le faire. Où est-ce que tu veux m'envoyer ? Je suis prêt, disponible, mes valises sont prêtes. Il y en a qui sont prêts à répondre ça ? Parce que sinon, vous pouvez vous adresser au CMMS, ils vont vous trouver des lieux de mission, regardez là. Moi, quand je vous pose une question, je me suis toujours posé avant, pour voir comment je réagirais dans cette situation. Et franchement, je me dis, mais Seigneur, me poserait une question pareille, je ne sais pas ce que je répondrais, hein, parce que je crois que je serais assez... Seigneur, il y en a plein d'autres, de bonheur. Vous savez, ce n'est pas dans ce que j'ai appelé la routine d'une vie bien rêvée qu'on peut risquer de chuter, comme l'a fait l'apôtre Pierre quand il a renié Jésus. Mais ce n'est pas non plus dans la routine d'une vie bien réglée qu'on fait l'expérience de l'amour infini et gratuit de Dieu pour nous. Quelqu'un a dit une fois, une parole qui m'a interpellé, il a dit « Osez prendre des décisions dangereuses ». Le directeur de l'Institut biblique de la Morlaix. Osez prendre des décisions dangereuses. Comme Pierre qui a sorti de la barque pour marcher sur l'eau, qu'un truc qui paraissait certainement fou pour les autres. Ah, là encore, qui veut frimer et faire son malin. Mais il a osé le faire, il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Même s'ils sont enfoncés après, il a encore appris des choses. Le Seigneur veut et peut nous utiliser, même quand il y a des échecs dans notre vie. Et à travers ces échecs, on peut expérimenter la profondeur de la grâce, du pardon, et on peut voir ce Dieu toujours prêt à nous faire prendre un nouveau départ avec lui. Mais peut-être qu'on doit, pour cela, se laisser modeler par cet amour que Dieu a pour nous. La dernière partie, je l'ai appelée « Toi, suis-moi ». Enfin, pas moi. Pierre entend cette parole de la part de celui qui est mort, ressuscité, de celui qui lui a lavé les pieds. Et je me suis dit, quelque part, dans cette expérience, Simon, il est comme en train de renaître, alors qu'il pouvait penser, j'ai raté ma vie. Non, le Seigneur intervient, il est en train comme de renaître. Il expérimente pleinement l'amour, le pardon, et il peut maintenant répondre à cet appel. Suis-moi, moi le ressuscité, suis mon exemple, mon enseignement. Suis-moi dans les projets que j'ai pour toi. Suis-moi sur le chemin de l'obéissance. Suis-moi jusqu'à la mort sur une croix. Suis-moi et aie confiance en moi. Suis-moi et pose pas de questions, Simon. Suis-moi. le ministère de Jean, son avenir, que t'importe?
Suis-moi.
Est-ce que les autres apôtres auront plus de succès que toi? Que t'importe?
Suis-moi.
Quelles sont les épreuves que tu vas rencontrer dans ton ministère?
Que t'importe?
Suis-moi. Combien de personnes se convertiront à travers ton ministère? Que t'importe?
Suis-moi.
Est-ce que tu vas laisser des écrits derrière toi?
Que t'importe?
Suis-moi. Est-ce que tu prêcheras en dehors du territoire d'Israël et tu auras un ministère international?
Que t'importe?
Suis-moi. Est-ce que tu vas faire de grands miracles?
Que t'importe?
Suis-moi. Est-ce que tu passeras du temps en prison?
Que t'importe?
Suis-moi. À quel âge tu mourras et de quelle manière?
Que t'importe?
Suis-moi. Si nous avons crucifié la chair avec ses passions, si par la puissance que donne l'Esprit Saint, nous avons fait mourir le vieil homme, si nous sommes bien morts avec Jésus et ressuscités avec lui, alors nous pouvons vraiment le suivre. Et le jour où viennent ce genre de questions, nous pouvons peut-être entendre la voix du ressuscité nous dire « Que t'importe?
Suis-moi. »
J'ai trouvé cette phrase dans un commentaire par rapport à ce texte et à l'amour là que Pierre exprime, qui dit « Nous pouvons clamer notre amour pour Dieu, mais la réalité de cet amour est attestée par notre disposition à le servir. Alors toi, suis-le. Amen. » Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, nous voulons encore te remercier parce que tu es pour nous notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que tu nous aimes malgré nos faiblesses, nos échecs, nos manquements, Seigneur. Tu continues à nous aimer, à agir en nous par ton esprit. Merci que tu as fait de nous tes enfants, que nous faisons partie de ta famille, Seigneur. Merci que ta parole nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Tu as écrit notre nom dans le livre de vie, et je veux te remercier pour cela. Merci aussi que nous avons, nous, cette promesse qu'un jour tu reviendras nous prendre et que nous participerons avec toi aux noces de l'agneau. Merci Seigneur encore de nous bénir pendant notre pèlerinage sur terre. Merci de conduire chacune de nos vies, mais aussi de nos assemblées. Et nous, Seigneur, d'avoir un cœur rempli d'amour pour toi, mais aussi rempli d'amour pour les frères et sœurs, mais pour ceux aussi qui ne te connaissent pas. Merci Seigneur aussi de la joie que tu nous donnes de t'appartenir. Amen.